Bonjour à vous. Je voudrais remercier Jean-Charles et Olivier de Casanova pour leur invitation. Vous me pardonnerez pour mon français qui est mauvais, mais j'espère que vous allez me comprendre suffisamment. Bien, dans les années qui ont suivi le colloque consacré au bois sacré, un nouveau Lucus Sacer a été découvert en Italie romaine. Ce dernier se situe non loin d'Altinum, une cité antique aux confins de la lagune septentrionale de Venise, qui fut habitée de manière continue par des Vénètes antiques dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. En 42 avant Jésus-Christ, à la suite de la dissolution de la province de la Gaule cisalpine et à son annexion à l'Italie, Altinum devint municipium romanum. À l'époque augustaine, Altinum fut incorporé à la decimo regio Venezia et Istria. Au 7e siècle après Jésus-Christ, elle fut abandonnée lorsque ses habitants allèrent s'installer d'abord dans l'île de Torcello, et puis à Venise. Altino, Torcello, Venise. À la périphérie méridionale de la ville antique, un lieu de culte a été découvert au cours des travaux d'aménagement du nouveau siège du Musée archéologique national d'Altino, que l'on choisit d'établir dans les locaux d'une riserie datant du 19e siècle. La riserie, le projet du musée qui était ouvert l'année passée. Cette découverte donna lieu à 10 années de fouilles jusqu'à 2007, conduites par le directeur du musée, Madame Margherita Tirelli. Les sanctuaires étaient situés dans le faubourg de la ville, ici, à l'extrémité méridionale, le long de la rive gauche du canal Santa Maria, c'est-à-dire de la voie navigable qui reliait et continue de relier ce site, qui était auparavant un port, à la lagune et puis à la mer Adriatique. Le bois sacré date de la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque, toutes les structures culturelles antérieures dont nous reparlerons, furent défonctionnalisées et se sont faites de deux puits préexistants autour desquels on procéda à une restructuration radicale de la zone. On commença par redéfinir les espaces au moyen d'un aménagement hydraulique qui suivit la direction des édifices publics urbains de l'époque augustéenne. On creusa en effet trois larges fossés qui délimitèrent un petit temple un temple de forme rectangulaire, 12 mètres pour 60. Sa façade est dotée de 4 colonnes, 1, 2, 3, 4, et il paraît aligné sur le fossat oriental. Ce qui caractérise le lieu de culte en tant que bois sacré, c'est la présence dans la zone qui fait face au petit temple de 22 trous qui couvre, excusez-moi, qui couvre un espace de 28 mètres sur 20. Ces trous sont disposés de manière géométrique et composent un quartillage régulier. Deux rangées, est-ouest, composées de 6 plans chacune au nord et au sud de l'édifice. Et 3 rangées nord-sud qui comprennent 4 plans dans l'allée proche du petit temple. Et 3 dans les 3 autres rangées. Des systèmes racinaires ont été découverts dans ce trou. Cela prouve la présence d'arbres et montre donc que nous sommes en présence d'un placement destiné à la plantation. Les trous présentent un diamètre compris entre 60 et 110 cm, ce qui est compatible avec des plantes de haute futaille telles que le saule, l'orme et le charme, espèces végétales dont proviennent de nombreuses branches retrouvées dans l'un des deux puits, celui qui se trouve au sud. Dans certains cas, le trou est entouré d'une couronne de renfort. Excusez-moi. Dans d'autres, on a constaté la réalisation de deux trous contigus pour les tuteurs qui accompagnent le tronc de l'arbre à plein planté, comme l'indiquait Virgile dans le récit que vous avez dans votre handout, la source numéro 1. Ici. Cela révèle que l'on procéda à des interventions successives de replantage. La structure de bois sacré renvoie par analogie à deux cas comparables, celui du sanctuaire des Gabies dans les Lassumes, dédié à Junon et qui remonte à la moitié du second siècle avant Jésus-Christ, et celui du sanctuaire ibérique des Munigua d'époque flavienne. Le Lucus d'Altinum fut circonscrit au nord, au sud et à l'ouest, par des murs, des délimitations dont il reste des vestiges de fondations en briques sesquipédales. Il s'agit toutefois de murs qui ont été ajoutés dans un second temple parce qu'ils empiètent sur l'espace occupé précédemment par une rangée d'arbres. C'est ça, comme vous voyez. Le complexe culturel fut défonctionnalisé au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, à travers un acte rituel dont il reste des traces dans un dépôt constitué d'un coffret en tuiles contenant la mandibule d'un cheval. Il s'agit à l'évidence d'un bois sacré artificiel. Les pratiques rituelles qui s'y déroulaient peuvent être en partie reconstituées sur la base des matériaux retrouvés dans les fossés latéraux et dans divers dépôts votifs, les plus riches ayant été découverts au niveau de la seconde rangée d'arbres. Ce sont des fragments de céramique, des verres, des pierres, des matériels anticoroplatiques, des productions statuaires, d'autels, des plaques, de lampes en nombre important et des céramiques à parois fines. Mais c'est surtout le contenu des deux puits qui aide à reconstruire les rites. Le puits extérieur, excusez-moi, a la forme d'un autel. Sa margelle est découverte de pierres et dans la canne, c'est-à-dire le conduit en brique, on a trouvé des artefacts en bois, une vingtaine de pions, une statuette intercuite de Télesphore, une petite tête féminine coiffée d'un diadème intercuite, une figurine féminine acéphale en os, trois gemmes et surtout surtout 215 pièces de monnaie, dont bon nombre remonte à l'époque flavienne. Et encore des restes animaux, notamment des oiseaux, des chiots, de nombreux mollusques et une grande quantité de restes botaniques, figues, prunes, cerises, griottes, noisettes, pêche, noix, pignon. Et encore des branches d'ormes, de frênes, de peupliers, de seules, de charmes, de noyers, de genévriers, de pins. Dans le puits interne, c'est ça, recouvert de dalles en trachyte, on a découvert des fragments de lampes et des céramiques à parois fines, ainsi que des ossements d'animaux portant des traces d'abattage et appartenant visiblement aux espèces ovines, caprines, porcines et bovines, à des oiseaux et à des mollusques marins. Le bois d'Altinum semble répondre aux exigences spécifiques qui, sur la base de sources littéraires, archéologiques et épigraphiques, caractérisent les Luchi Sacri et qui avaient déjà été mises en lumière lors des colloques qui s'est tenu il y a 20 ans. Résumons à présent ces principaux éléments à l'aide d'une documentation comparative. La délimitation. Comme le montrent les inscriptions de Montopius et de Cosilinum que vous avez en source 2 et 3 de votre handout, elle était nécessaire dans le bois sacré car elle permettait de mettre en évidence la différence de statut qui caractérisait les deux espaces, l'espace humain hors de l'enceinte et l'espace du devin au sein de l'enclos, ce qui requérait des précautions rituelles adéquates afin d'y accéder. Les contraintes concernant la fréquentation du lucus et sa réglementation, exprimées par des legs appropriés, étaient dûment diffusées au moyen de supports généralement apposés à proximité des sexes de l'espace clos, comme par exemple la Lex Lucis Pulietine que vous avez aux sources 4 et qui était déjà réclamée. À Altinum, la délimitation au moyen de murs, dont il convient de souligner qu'elle est postérieure à la première implantation des rangées d'arbres, est présent sur trois côtés, tandis que les fossés tiennent lieu de quatrième bordure. L'eau. La présence de l'eau est fréquente dans le bras sacré. Elle a une fonction médicinale, oraculaire, lustrale. À Altinum, le bois est entouré par des fossés de délimitation remplis d'eau. Il y a deux puits. L'un externe se situe au-delà du fossé, l'autre interne se trouve devant le petit temple entre deux rangées d'arbres. Dans le premier puits, on jetait probablement les dons initiaux du rite, des offrandes en argent et des denrées alimentaires, des restes de sacrifices d'animaux et de nombreuses branches provenant vraisemblablement de l'élagage et des replantages périodiques qui était généralement normé ritualement, comme le montre la tabula veliterna, la lex de Lucis Poletine, les actes de frère Arvar, que vous avez en source 15, 6, 7. On peut penser que le contenu du second puits renvoie aux actes finaux du cycle rituel. Coupe pour des rites de purification ou pour la libation, et lampe que l'on utilisait peut-être lors des rites nocturnes et que l'on jetait dans l'eau au terme de la liturgie. Les arbres, ils apparaissaient comme les éléments incontournables de bois sacré. Ils ne sont généralement pas fructueux, sinon il s'agirait des orties, et les essences végétales sont mélangées. Comme nous l'avons déjà dit, nous savons, grâce au fauchage, qu'il y avait différentes espèces d'arbres non fruitières ad altinum. Orme, frêne, peuplier, saule, charme, noyer, genévrier, pin. Mais on a retrouvé les systèmes racinaires dans le trou seulement de orme, saule et charme. Construction immobilière. Les bois sacrés hébergent souvent des annexes fonctionnelles. C'est le cas à Altinum, comme nous l'apprend le fragment d'une dalle de marbre retrouvée près du bois artificiel. Cette dalle mentionne Jupiter et évoque la dédicace de la part d'un sujet resté anonyme à cause des caractères incomplets de la pierre, peut-être un flamen perpetus, je ne sais pas, de supellectilem, c'est-à-dire objet sacré, et vraisemblablement d'ornamenta, c'est-à-dire le monde immobilier, qui provenait sûrement du petit temple tétrastyle. Ex voto et donaria. Il constitue un autre élément fondamental de bois sacré. Dans le Lucus d'Altinum, les fragments en pierre gravée retrouvés à l'intérieur de rampes de fossés de périmètre appartiennent pour la plupart à la typologie des plaques. On peut supposer qu'elles étaient affichées sur les murs de petits temples tétrastyles. Une lamelle de plomb, si l'on devait confirmer qu'elle provient bien du sanctuaire, une lamelle de plomb opistographe, serait susceptible de correspondre au vu des sous-trous d'accrochage, c'est ça, aux memores tabelle suspendues aux arbres et auxquelles se réfère Ovid dans le récit du mythe de l'impie Érisicton, profanateur de bois sacré, que vous avez en source 8. On note bien que dans une moindre proportion, la présence d'autels votifs qui nous sont parvenus malheureusement soit sous forme fragmentaire, soit pour le seul rester intact sous forme anonyme. En ce qui concerne la divinité à laquelle était consacrée la structure sacrée, l'instrument comparatif n'est d'aucune aide, dans la mesure où le bois sacré était dédié soit à une seule divinité, soit à plusieurs entités divines, qui pouvaient être tant masculines que féminines. Dans le cas d'Altinum, les conclusions sont contradictoires. Le nombre limité de lettres conservées sur le fragment de plaque ne permet pas d'identifier certains théonymes avec certitude. Ainsi, jusqu'aujourd'hui encore, hormis Jupiter mentionné au génitif sur la plaque de dédicace en marbre citée précédemment, aucune autre divinité n'est attestée en tant que destinataire du culte dans les sanctuaires. Cependant, quelques indices, comme par exemple le lampe, évoquent des cultes chthoniens, par conséquent leur prudence et de rigueur. Mais pourquoi a-t-on créé un bois sacré? Lors de la période impériale, lorsque la cité fut devenue un municipe romain, de nombreux lieux de culte devaient exister ad Altinum, tant dans la ville que dans la zone périurbaine. Jusqu'à présent, les fouilles archéologiques se sont concentrées principalement sur la nécropole et sur les zones situées au dehors de la ville. Nous savons ici qu'il devait y avoir à la périphérie septentrionale, ici, à la périphérie septentrionale de la ville, un lieu de culte dont provient des autels dédiés aux différentes divinités. Vénus Augusta, Ops, Di Inferi, le dieu de bois, Lucri Meriti, Vetlonia, et peut-être Terra Mater dans un hôtel qui disparaît. Des photos aériennes ont permis de localiser l'espace correspondant au Capitolium, vous voyez le Forum et le Capitolium. Situé au cœur de la ville. Encore, un bloc de pierre réemployé dans la baptistère de l'île de Torcello, provenant visiblement d'Altinum, parle de la réalisation de la part de Tibère, qui n'était alors pas encore empereur, de ce que l'on nomme, sans plus de précision, de temple. Mais alors, pourquoi avoir réalisé dans le faubourg méridional de la ville un petit lieu de culte en forme de bois sacré artificiel dédié vraisemblablement à Jupiter? La réponse à cette question réside dans l'histoire du lieu qui, comme les feuilles l'ont mis en lumière, fut le siège d'un sanctuaire à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce dernier s'élève sur un monticule de sable. Il présente un plan rectangulaire, 20 mètres pour 12, se compose de structures en bois, comme le révèle le 40 trous des poteaux. Se compose de deux cellules, d'un portique, et dans la cour de 15 mètres sur 7, de deux autels de cendres. C'est de cette période que date la route située à l'est, ainsi que de nombreux dépôts rituels correspondant à des restes de sacrifices, principalement de petits cochons de lait, et des fosses de décharge du matériel votif, au sein duquel on remarque des feuilles de production locale et des petites bronzes d'importation provenant tant de la zone étrusco-padan que de la Grèce. Le cadre de la documentation confère au sanctuaire une configuration emporique notable. Entre la 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, on trouve des dépôts sélectifs des mandibules et des pattes antérieures d'équidés, ce qui dénote par conséquent une pratique intensive du sacrifice du cheval. Ensuite, au 4e siècle avant Jésus-Christ, on accentue la composante masculine guerrière au sein du peuple des dévots représenté sur le matériel votif du sanctuaire. Des fantassins et des chevaliers figurent sur de nombreux petites bronzes dont beaucoup possèdent des caractères de type celtique. Comme c'est ça. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, il faut noter l'existence de documents singuliers au sein des décharges votives. Il s'agit de 84 récipients cylindriques de petite dimension en feuille de bronze, à l'intérieur desquels on a découvert des traces de tissus et qui furent sûrement utilisés lors des pratiques rituelles spécifiques. À partir de la seconde moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'à la moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, on assiste à une transformation radicale du lieu du culte, placé sous le signe de sa monumentalisation selon le canon hellénistique. C'est en ce même lieu et selon la même orientation que l'on construisit un quatre-portique de 62 mètres sur 34 qui entourait un cours de 46 mètres sur 19, doté d'une colonnade en brique. On remarque la présence dans l'aile latérale occidentale des petites selles et dans l'angle nord-oriental, on creusa un puits qui devait servir pour des pratiques cultuelles et qui continua à être utilisé à l'époque impériale, comme nous l'avons dit auparavant. Tout au long de l'existence du sanctuaire, lors de la période pré-romaine, du 16e au 12e siècle avant Jésus-Christ, de nombreux artefacts en bronze, en argile et en pierre, dédiés à la divinité, puis ultérieurement défonctionnalisés rituellement, portaient des inscriptions étudiées par Madame Anna Marinetti, inscriptions dans l'alphabet, dans la langue de Venette antique. 14 attestations épigraphiques révèlent les théonymes dans ces deux variantes, Altno et Altino. Le verre des scriptures est de droite à gauche. Altno, Altino. Le nom de Dieu, du Dieu, correspond au nom de la ville dans l'époque romaine. À l'époque augustéenne, à 10 mètres au nord du lieu de culte pluriséculaire encore en usage, on érigea un petit édicule duquel il reste le sept plinthes de la colonnade. Devant la façade de l'édifice, on construisit le second puit doté d'une margelle en trachyte à 20 mètres de distance du premier, qui lui aussi continua à être utilisé à l'époque impériale. Bien, le cadre esquissé jusqu'à présent pour l'histoire de ce lieu de culte fait émerger des lignes de continuité et de discontinuité entre l'époque républicaine et la période impériale. La continuité est représentée par la persistance de la fonction sacrée, par l'apparente consécration à une divinité masculine unique, et par la permanence de l'usage de deux puits qui servent de courroies de transmission liturgique entre les deux périodes, sûrement en raison de l'importance des pratiques rituelles qui étaient concentrées autour de ces derniers. La discontinuité concerne l'orientation des structures et la substitution de Jupiter à Altno. On ne peut toutefois pas exclure qu'un lien subsiste dans l'épithète, si l'on admet l'hypothèse émise par Giovanni Colonna, qui a proposé l'intégration Altinatis pour les thionies mentionnées sur la plaque de dédicace du bois sacré. Il ne reste apparemment pas de traces archéologiques d'un bois sacré à l'époque pré-romaine. Cependant, on est en droit de se demander si sa création à l'époque impériale ne correspond pas un simple englobement formel de précédents contenus culturels du sanctuaire indigène, dont l'existence n'a jusqu'au présent pas été matériellement prouvée. En effet, une tradition locale des bois sacrés dans la zone haute-adriatique en général, et plus particulièrement dans la zone vénète, est bien documentée. Les textes d'une bombilière située à Padoue l'attestent, en faisant explicitement mention d'un lucus, Anteluki Thermon. Cela est corroboré par le témoignage de Strabon, vraisemblablement dépendance de celui d'Étimée. Témoignage que vous avez aux sources numéro 9. Strabon a situé l'usage du sacrifice d'un cheval à Diomède dans la zone haute adriatique et a localisé chez les Vénètes deux alces dédiées respectivement à Hera Argiva et Artemis Etolien, caractérisées par des traits connotatifs surprenants. Au sein de ces dernières, les fauves sont apprivoisés. Cerfs et lupes cohabitent pacifiquement et le gibier est libre d'échapper à la poursuite des chiens. On trouve par ailleurs, en lien avec les alces, une légende citée par la suite dans le même passage, ayant pour protagoniste la figure d'un homme qui se porte garant pour un loup et celle du loup qui, en remerciement de sa libération, fit conduire à son bienfaiteur un troupeau de juments qui seront dites lycophores. Le thème a longuement été débattu par la critique, tant ce qui concerne la localisation de bois que les destinataires de tels cultes. Certains y voient des traces des rites helléniques transplantés dans la zone haute-adriatique par les premiers visiteurs grecs. D'autres, comme moi, considère au contraire que les données straboniennes recouvrent d'une patine hellénique des réalités religieuses indigènes. Le sanctuaire vénète situé ad Altinum ne peut évidemment pas être identifié comme l'un des deux alces du récit de Strabon, car aucune certitude de la présence d'une divinité féminine n'a encore émergé, tandis que la documentation archéologique atteste explicitement qu'il était dédié à une divinité masculine locale, Altno Altino, et que note la fréquentation, à vue de la nature des matériaux votifs, semble faire prévaloir des caractéristiques masculines et guerrières. Cela dit, trois éléments militent en faveur de la présence d'un bois sacré. En premier lieu, les profils amporiques qui caractérisent le lieu de culte depuis ses origines et au sein duquel convergent des artefacts appartenant à des ethnies différentes, vénètes, étrusques, celtiques, grecques. Une telle vocation mercantile se concilie bien avec les métaphores animales présentes dans le récit de Strabon qui sous-entendent la cohabitation de diverses réalités ethniques, dans certains cas potentiellement conflictuels, et renvoie en l'institution de l'Azulia grâce à la protection divine qui s'exerce à l'intérieur des Téménoï boisés. En second lieu, la légende de l'homme qui se porte garant pour une lupe et de lupe peut être évoquée par des documents dans les sanctuaires altinats. Les museaux de profil de lupe figurent sur un fragment des feuilles de bronze. De même, un lupe est présent sur les ceinturons d'une figure féminine voilée représentée sur une autre feuille de bronze. Les particuliers. Et c'est aussi le mage d'un lupe qui figure au sommet d'un autel dédié au dieu Altno. En troisième lieu, la partie du sacrifice du cheval mentionnée dans le récit du géographe est attestée, comme nous l'avons vu, dans les sanctuaires d'Altinum, tant par une fosse rituelle destinée exclusivement au reste équin, que par des dons votifs qui représentent le cheval. De fait, ce sacrifice de cheval semble profondément enraciné dans le rite du sanctuaire, comme le montrent aussi les liturgies spécifiques de peau du crâne du cheval, adoptées pour sceller la fin de l'utilisation des fosses de décharge. À plusieurs siècles de distance, ces mêmes rites seront à nouveau pratiqués, comme nous l'avons vu, lors d'un rite d'expiation qui sanctionne la fin, dans ce cas définitif, du lieu de culte pluriséculaire, témoignant ainsi d'un lien profond et interrompu avec les formes précédentes du culte vénite. Sur la base de l'ensemble de ces indices, il semble donc possible de conclure que les bois sacrés d'époque impériale d'Altinum représentent le moyen par lequel, après le passage à la romanité, on entendait perpétuer, en le travestissant par l'adoption de nouvelles modalités, une forme de culte indigène des traditions antiques. Merci pour votre attention.